clivage, c'est bon, tout le monde
oui, filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais,
9h40, l'instant M, vous y êtes et restez-y.
C'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Formation numérique.
Venez sur l'écran internet.
Il risque la prison à vie pour avoir révélé que les services secrets turcs livraient des armes aux milices syriennes anti-Bachar. Can Dündar est aujourd'hui sous les verrous. Vous l'avez qualifié de héros du journalisme en Turquie. Vous mettez tout en œuvre pour le sortir de sa geôle. Bonjour Christophe Deloire.
Bonjour.
Secrétaire général de Reporters sans frontières, vous dévoilez ce matin votre bilan 2015 des pires prisons de journalistes dans le monde. Avant cela, un œil sur l'actu en France et à l'étranger. Et l'après-coup de Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Exceptionnellement décalé au mardi où les fans se sont inquiétés, on a attendu les guignols pour vous entendre. Verdict assez éloigné de celui que vous entendez depuis ce matin sur France Inter.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Situation très tendue chez France Média Monde qui regroupe nos confrères des RFI, la radio Monte Carlo Doualia et la chaîne d'info internationale France 24. Grève vendredi dernier déjà, nouveau préavis pour aujourd'hui, en jeu la complexe harmonisation des statuts des collaborateurs de ces trois médias. Mauvaise nouvelle pour la liberté de la presse, inquiétude. En tout cas, le mastodonte chinois de l'internet Alibaba vient de s'offrir pour 250 millions d'euros le South China Morning Post, soit le plus grand quotidien de Hong Kong édité en anglais et dont le groupe publie également les éditions locales de Elle, Cosmopolitan et Harper's Bazaar. Pékin entend-il reprendre la main sur ses contenus ? Sinon, la question qui agite le PAF depuis hier et qui, je suis sûre, vous a tous empêché de dormir, c'est oui ou non, Julien Lepers est-il viré de questions pour un champion ? Téléstar l'affirme, France 3 ne commande pas. Un commentaire, vous, Christophe Deloire, pas Julien Lepers, ça j'en suis sûre, peut-être Alibaba ?
Oui, qu'un oligarque chinois, puisque Alibaba, c'est le premier groupe internet en Chine, rachète un grand journal de Hong Kong, un grand quotidien, là où la presse était un peu plus libre qu'ailleurs. C'est évidemment inquiétant. Ça participe d'une évolution mondiale, où dans de très nombreux pays, en Inde, en Russie évidemment, mais dans nombre de pays, des oligarques, des personnalités du business qui sont en relation avec le pouvoir, qui sont... dans des conflits d'intérêts, rachètent des journaux. Il y a une grande inquiétude à Hong Kong, particulièrement, où très clairement, le pouvoir de Pékin essaie d'asseoir son pouvoir sur la presse de manière un peu plus soft, mais en franchisant d'une certaine manière, c'est-à-dire en faisant en sorte de faire acheter par des amis.
Et dans ces oligarques qui prennent la main un peu partout dans le monde, vous avez jeté un coup d'œil sur ce qui se passe en France ?
Oui, alors je suis pas certain qu'on puisse vraiment comparer. Et évidemment, même il n'y a pas de comparaison possible. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il y a des problèmes d'indépendance en France, évidemment. Vous parliez des guignols. Au-delà de la question des guignols, à Canal+, l'enjeu en ce moment, c'est que le Conseil supérieur de l'audiovisuel travaille avec le groupe de Vincent Bolloré à l'établissement d'un comité d'éthique. Il faut que ce comité d'éthique, par ses statuts, par les personnes qu'ils composeront, soit autre chose qu'un comité fantoche. C'est l'enjeu en ce moment.
Eh ben, on y vient justement. Bruno Donnet, alors, comme promis hier soir, vous avez regardé la première des guignols de Canal+, largement commentée sur Twitter et aussi dans la presse depuis ce matin. Ma question est extrêmement simple, vous avez trouvé ça comment ?
Eh ben, je suis bien embêté pour vos réponses. On est bien embêté parce que, pour être très honnête avec vous, j'aurais bien aimé me pointer ici ce matin pour vous dire que les guignols étaient devenus un programme pathétique. Ça m'aurait fait plaisir parce que, comme tous les amoureux de la liberté de brocarder les puissants, j'ai pas vraiment goûté la reprise en main musclée de l'émission par le nouveau boss de Canal+, Vincent, le gars qui trouve ça beau, l'orée de la liberté d'expression, à condition toutefois de ne pas pénétrer trop profondément dans les sous-bois du Crédit Mutuel. Ça m'aurait fait plaisir, seulement voilà, ça serait très inexact et même particulièrement injuste. Pourquoi ? Eh bien parce que les guignols que j'ai vus hier soir, en tout cas, sont extrêmement semblables à ceux qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici, avec même une petite touche de modernité supplémentaire. Alors, pourquoi les guignols ont-ils réussi leur coup ? Eh bien, d'abord, parce qu'ils ont su éviter un certain nombre d'écueils. Pour faire simple, on redoutait de voir hier la marionnette de Kim Kardashian balancer une vanne à celle de Bolloré, pour avoir l'air indépendant, le tout sur un texte écrit par Jean Roucas. Or, on a vu de la politique, de la vraie, traitée comme d'habitude, mais par une nouvelle marionnette, celle d'Élise Lucet.
Moi, je vais me faire Sarkozy. Cette interview, j'y pense tous les matins en me rasant.
Voilà, Sarkozy, précisément, c'était le second écueil. Hein. On craignait qu'il ne soit épargné par les auteurs en raison de ses amitiés avec Vincent Bolloré, de son yacht et de son maillot de bain. Or, c'est lui qui a mangé le plus copieusement hier soir. Au menu, il y avait salade, rhubarbe et surtout, fragilité politique.
Ah, mais Lucie, la politique, c'est sérieux. C'est pas passe-moi de chausse-pied, je t'envoie la tartiflette.
Enfin, monsieur Sarkozy, avouez que c'est la gauche qui vous a aidé à gagner en PACA et dans le Nord.
Je vais pas rentrer dans ce petit jeu avec vous, Mme Lucet. Avec moi, c'est pas passe-moi l'estrosie, je t'envoie la bouillabaisse, hein?
Voilà, alors maintenant, pourquoi est-ce que les nouveaux guignols sont plus modernes que les anciens? Eh bien parce qu'ils ont remisé la statue du commandeur. Exit PPD et sa présentation de l'info en majesté, désormais, le JT des guignols est incarné par un couple. Comme sur BFM TV, un gars, une fille, qui n'ont pas de nom de famille, juste un prénom.
Vous regardez un journal en plus de 140 caractères, bonsoir.
Bonsoir Clément.
Bonsoir Barbara.
Voilà, Clément et Barbara, c'est personne, hein, ou plus exactement, c'est tout le monde, tous les journalistes, parce que les guignols ont intégré une dimension qui leur manquait jusqu'ici, la multiplication des chaînes, la banalisation du quart d'heure de célébrité warholien, et surtout, le triomphe du modèle imposé par les chaînes info. Fini donc les vedettes de la télé façon PPD, car aujourd'hui, pour accéder au rang de star de l'info, il ne suffit plus de la présenter, il faut interviewer les puissants. Voilà pourquoi, dans les nouveaux guignols, les intervieweurs s'appellent Yann Barthès, Élise Lucet ou David Pujadas. Ils sont concurrents et Pujadas pleure quand il ne décroche pas un client suffisamment puissant.
Moi, je pensais faire l'interview de Marine Le Pen. Et finalement, j'ai dû faire celle de Xavier Bertrand.
Bref, les guignols sont restés les éditorialistes qu'ils étaient. Ils ne sont pas moins politiques qu'il y a 6 mois, pas moins acerbes à l'endroit de Nicolas Sarkozy et des médias. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils sont désormais cryptés, c'est-à-dire nettement moins visibles, comme l'ensemble des programmes de Canal+, dont l'audience et les abonnés ne cessent de se faire la malle. Et tout ça grâce à qui? Grâce à Vincent Bolloré, à croire que le principal guignol de la chaîne, eh ben c'est le patron.
Bon, moi, pour tout vous dire, je les ai trouvés pas très drôles, ces guignols, mais bon, c'était déjà souvent pas le cas avant. Christophe Deloire y a même eu l'été dernier une pétition, hein, touche pas aux guignols, comme peut-être vous n'en obtiendrez jamais pour les causes que vous défendez, vous, les guignols, symbole d'une liberté d'expression sacrifiée sur l'autel du capitalisme. Les l'eau un peu coulée sous les ponts aujourd'hui, vous trouvez que c'est légitime, démesuré, dérisoire?
Alors, je n'ai pas regardé les guignols hier soir, donc je suis incapable de vous répondre sur ce point.
Non, mais je vous parle vraiment de cette levée de bouclier du mois de juillet.
Non, la levée de bouclier, elle était imputable au fait qu'il y avait eu un choc, et un choc lié à des comportements du groupe qui étaient attentatoires à l'indépendance éditoriale, que le risque, c'est que les choses rentreront dans l'ordre, des processus se mettre en place qui portent atteinte à l'indépendance éditoriale, mais sans qu'il y ait de choses visibles, et c'est la raison pour laquelle il faut des procédures. Je parlais de comité d'éthique. Ouais. Ça doit être un comité qui garantit l'indépendance éditoriale. Parce que pour garantir l'indépendance éditoriale, il y a évidemment les questions liées à la structure capitalistique. Et puis, il y a des procédures qui sont mises en place de manière plus ou moins favorable en fonction des médias. Et à Canal+, il est essentiel que ça le soit. Et c'est le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel que de faire en sorte que ce soit le cas. Nous, on avait été auditionnés à Reporters sans frontières et avec un collectif par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ce point.
Voilà, pour la France, direction la Turquie.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
We published this news and the pictures and the footage of the trucks trafficking arms to Syria from Turkey, and it has become a big issue in Turkey, and the president has threatened us directly to me, in fact, and he said that I will follow him till the end of it.
Voilà la voix de Can Dündar. Il est le rédacteur en chef de Cumhuriyet. Je ne sais pas si je le prononce.
Cumhuriyet,
voilà, qui est un très grand quotidien turc, quotidien de référence, extrêmement critique à l'égard du pouvoir. Cumhuriyet signifie la République. Can Dündar est en prison. Il venait juste de recevoir le prix RSF. Christophe Deloire, vous êtes le secrétaire général. Voilà, de Reporters sans frontières. Le prix RSF pour la liberté de la presse à Strasbourg.
Oui, lors de son discours à Strasbourg, Can Dündar avait dit que de son bureau à Cumhuriyet, il y avait 2 fenêtres, et que par ces fenêtres, l'une donnait sur un palais de justice et l'autre sur un cimetière, et que c'était 2 lieux que les journalistes turcs fréquentaient trop souvent. C'est le cas aussi des prisons. Il s'est retrouvé 9 jours plus tard à la demande d'une certaine manière du président turc Erdogan, puisque c'est le président turc Erdogan lui-même qui a déposé plainte après avoir dit publiquement qu'il ferait payer les journalistes qui avaient publié les informations dont vous parliez tout à l'heure. Il a demandé, le président Erdogan, deux peines de prison à vie, plus une troisième à 42 ans de prison. Aujourd'hui,
une sorte de peine de sûreté. Hein.
Une peine de sûreté générale pour trois infractions, parce qu'aujourd'hui, Can Dündar et son collègue Erdem Gül, Can Dündar c'est le directeur de la rédaction de Cumhuriyet, Erdem Gül c'est le responsable du bureau d'Ankara, sont en détention pour trois infractions qui leur sont reprochées. Le fait d'avoir dévoilé des secrets d'État. Ils se seraient rendus, d'après le pouvoir turc, rendus coupables d'espionnage, ce qui est évidemment absurde, et de complicité avec les terroristes.
Alors, on va rappeler les faits. Hein. Le quotidien Cumhuriyet révèle, avec photos de une, vidéo à l'appui et enquête extrêmement détaillée et fournie, des livraisons d'armes par les services secrets turcs aux islamistes combattant le régime de Bachar el-Assad. Des armes dissimulées, on s'en souvient, pour ceux qui avaient suivi l'affaire sous des médicaments. Ça avait déclenché un séisme politique. C'était tombé juste avant les élections turques. Difficile d'en mesurer l'impact, mais c'est ce qui avait valu les foudres hein, aujourd'hui du pouvoir politique.
Oui, alors très clairement, il y a en Turquie des règlements de compte entre des factions, une grande opposition entre le parti AKP du président Erdogan et ce qu'on appelle la confrérie Gülen de l'autre côté. Mais Can Dündar n'est pas dans ce combat-là. Lui, il est dans le journalisme. C'est un modèle de journalisme, Can Dündar. Et son journal est aussi un journal à qui nous, Français, d'une certaine manière, devons beaucoup. C'est le seul quotidien de tout le monde musulman, avoir osé, après le 7 janvier, publier des dessins de Charlie Hebdo et la couverture de Charlie Hebdo. Et d'ailleurs, l'autre jour à Istanbul, à la rédaction de Cumhuriyet, j'ai rencontré les journalistes qui avaient publié ces dessins et qui sont eux-mêmes poursuivis pour cette infraction. Le jour où Can Dündar est venu à Strasbourg recevoir pour Cumhuriyet le prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, il avait dû demander à des magistrats une exemption de comparaître à une autre audience. Troisième affaire, avec 17 autres rédacteurs en chef pour avoir publié une photo. La photo d'un procureur qui avait été menacé et abattu. C'est une série d'attaques contre les médias à base d'emprisonnement. Et malheureusement, les prisons turques se remplissent à nouveau de journalistes.
Après un triste record pour la Turquie en 2015.
Après s'en être en partie vidés de journalistes kurdes qui avaient été placés, accusés pour certains d'entre eux de manière absolument illégitime de collusion avec les terroristes. Il y a des intrusions dans les médias. Quelques jours avant les élections dont vous parliez, 4 jours exactement, un groupe de médias, IKP, fait l'objet d'une intrusion policière. Il y a des télévisions, journaux, 71 journalistes dans la foulée en un week-end sont mis à pied. Quelques jours plus tard, le journal réapparaît avec une ligne éditoriale radicalement changée. J'ai rencontré à Istanbul des dirigeants de journaux. Il y a une presse d'opposition. C'est une démocratie, la Turquie. C'est un grand pays. Il y a des institutions. Ça devrait être l'honneur des institutions turques d'avoir en Turquie des journalistes comme Can Dündar et qui devraient être libres, pouvoir faire leur travail au lieu d'être en prison. Malheureusement, on est aujourd'hui dans une forme de dérive un peu autoritaire.
Avec un pouvoir judiciaire complètement à la botte du pouvoir politique, puisque vous vous en êtes dit abasourdi, le parquet a donc donné ses réquisitions et il a été suivi à la lettre. Vous avez donc lancé une pétition, vous avez réuni des grands noms, Gunther Wallraff, Edgar Morin, Noam Chomsky, Jean Daniel, Mikis Theodorakis en Grèce, Karl Bernstein aux États-Unis, des patrons de médias américains, suédois, marocains, russes, français, vous faites appel aux institutions européennes pour que ça bouge, donc c'est une affaire à suivre. Et vous publiez ce matin, Christophe Deloire, ce classement annuel des plus grandes prisons au monde, des prisons de journalistes. 153 journalistes professionnels, 160 journalistes citoyens, 13 collaborateurs de médias, c'est un petit peu moins qu'en 2014, tout de même. La plus grande prison au monde, ça reste la Chine, on en parlait tout à l'heure avec Alibaba.
Oui, ça reste la Chine où des journalistes... Alors, il y a une grande journaliste que Reporters sans frontières défend depuis longtemps, qui est Gao Yu, qui avait été placée en détention et condamnée à 7 ans de prison après avoir fait des confessions publiques à la télévision officielle chinoise, qui a été récemment... qui a pu rentrer chez elle, même si elle demeure en résidence surveillée, et malheureusement pourrait retourner en prison. On se bat pour que ce ne soit pas le cas. Mais il y a le cas de ce journaliste qui, en juillet, était placé en détention et on est, depuis la justice chinoise, n'a pas donné de nouvelles. simplement parce qu'il avait fait un article dans un journal économique qui avait prévu la chute de la bourse de Shanghai. Mmh. C'est quand même terrifiant de constater que dans des pays comme la Chine, et c'est le cas malheureusement dans d'autres pays, il y a l'Égypte, l'Iran, l'Érythrée, tant de pays où beaucoup de journalistes sont en détention, mais on peut être placé en détention simplement parce qu'on fait son métier, et je suis pas là dans une défense corporatiste, ça n'est pas plus grave évidemment qu'un journaliste soit placé en détention plutôt qu'un autre détenu politique, mm-hmm. mais ça empêche complètement dans ces pays l'ensemble des citoyens d'avoir accès à l'information qu'ils méritent pour choisir leur vie et, le cas échéant, prendre des décisions collectives.
Alors, vous faites des portraits hein, aussi de journalistes qui vivent des calvaires. Hein. Vous avez choisi, par exemple, le cas de Narges Mohammadi en Iran. Cette femme vit l'enfer depuis 2010. Elle alterne entre la prison et l'hôpital. Et quand elle est en prison, elle est privée des soins médicaux dont elle a besoin. Manifestement, elle est coupée aussi et interdite de visite et de contact avec son mari et ses enfants qui ont dû fuir. Il faut dire un mot sur l'Iran quand même, parce que la situation est effrayante. Le système judiciaire complètement contrôlé par le régime, par le guide suprême de la révolution, Christophe Deloire.
Oui, et malheureusement, on a tendance à penser qu'avec l'arrivée au pouvoir de Rouhani, avec l'aboutissement des négociations sur le nucléaire, les choses se sont arrangées en Iran. Malheureusement, le sinistre centre de détention d'Evin, près de Téhéran, ne s'est pas vidé. La journaliste dont vous parliez, Narges Mohammadi, lorsqu'elle est en prison, elle est privée de soins, et lorsqu'elle est à l'hôpital, elle est menottée. C'est une situation, terrifiante. Je pense aussi à ces journalistes en Érythrée. Ce pays, l'Érythrée, c'est un pays essentiel, parce que une bonne partie des migrants viennent d'Érythrée. Et s'ils viennent d'Érythrée, c'est parce que le régime dirige ce pays est l'un des pires de la planète. L'Érythrée, c'est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse. Les journalistes ont été placés dans des camps de détention abominables, parfois dans des containers, en 2001, et bon nombre n'ont pas été libérés depuis. Il y a des répercussions sur ce dont on parle aujourd'hui. C'est évidemment des choses où, par intérêt pour les populations de ces pays-là, ça doit nous importer, mais
aujourd'hui, dans un monde totalement globalisé.
La mondialisation n'est pas qu'économique.
On le voit aujourd'hui aussi avec les conflits au Moyen-Orient et le problème des migrants. C'est-à-dire qu'un journal qui meurt et un journaliste qui meurt à l'autre bout du monde a des conséquences directes sur notre système à nous.
Le fait qu'en Érythrée, il y ait autant de détenus politiques, ça pousse des gens à la migration. Le fait qu'en Turquie, le journalisme d'investigation soit combattu, ça fait que ça rend plus difficile de savoir la réalité du conflit syrien et de ses répercussions, y compris les enquêtes sur ceux qui nourrissent le terrorisme. Et donc, c'est une autre raison, une raison supplémentaire que de se battre pour la liberté de la presse dans ces pays.
Je vous remercie Christophe Deloire. Je vous renvoie au site de Reporters sans frontières, RSF. Vous aurez tout le détail hein, des chiffres. 23 détenus en Égypte, 23 en Chine, 21 en Égypte, 18 en Iran, 15 en Érythrée, 9 en Syrie, en Turquie. Il y a également des journalistes portés disparus, c'est-à-dire des journalistes que vous ne pouvez pas mettre au classement des journalistes morts à la tâche, puisque c'est des journalistes dont vous êtes sans nouvelles. Et puis des journalistes otages. Merci Christophe Deloire et on continue de suivre le cas de Jeanne Dundar dans l'Instant M. C'est la fin de l'émission. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin dans Un jour en France, parole aux électeurs et aux auditeurs. Quels enseignements tirer des régionales et comment changer le regard sur la politique après ces élections? 01 45 24 7000 et Un jour en France à radiofrance.com pour l'adresse courriel.
Et ce sera juste après les infos.